BFM Business, l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, Erwan Maurice.
On est reparti pour un nouveau numéro d'Happy Boulot. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Au programme, comment accompagner l'internationalisation de son entreprise. Côté RH, on en parle avec la DRH de la semaine, Sandrine Caro, chez Sia Partners. Dans moins de 10 minutes, on répondra aussi à une question d'auditeur avec vous, Jeanne.
Question que vous nous envoyez sur happyboulot@bfmbusiness.fr. On appelle aujourd'hui l'avocat Mathieu Valence qui va nous parler de la saisie des prud'hommes en cas de rupture conventionnelle.
Dans notre focus, on s'intéressera au management de transition et puis la carte blanche est donnée aujourd'hui à la tiktokeuse Adeline qui nous présente la RH qui recadre un manager toxique. C'est parti, on vous sort de votre boîte.
Happy Boulot, la DRH de la semaine.
Participer à l'internationalisation d'une entreprise du côté des ressources humaines, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui et on en parle avec vous, Sandrine Caro. Bonjour.
Bonjour Erwan.
Merci d'être là. Vous êtes responsable du département développement des talents pour le cabinet de conseil Sia Partners, cabinet de conseil français, mais qui s'est internationalisé aussi ces dernières années pour partir à la conquête du monde. L'un des gros développements à l'étranger que vous avez fait, ce sont les États-Unis. Alors particulièrement en 2019 avec l'acquisition d'un cabinet new-yorkais qui a fait doubler les effectifs de Sia Partners. Ça part de quoi d'abord cette volonté?
Alors, du coup, donc Sia Partners, donc c'est un cabinet donc de conseil en management et IA. La nature même du métier du conseil, ça se veut global. Après, évidemment, on adapte en local, évidemment, les solutions pour les clients. Et donc, dès le démarrage, en fait, de la construction de Sia, il y avait cette envie d'internationalisation.
Il faut pouvoir toucher les clients partout où ils sont.
Exactement. Et alors, moi, je suis arrivée il y a 11 ans dans le groupe. Quand je suis arrivée, on était 300. En tout, et 80% du chiffre d'affaires était en France. Aujourd'hui, on est 3000 et uniquement 45% du chiffre d'affaires est réalisé en France. Donc, il y a vraiment une explosion de la partie internationale.
Bon, on va parler bien sûr de tout ce que l'internationalisation peut apporter pour les collaborateurs, mais commençons peut-être pour s'en débarrasser d'abord avec les difficultés. Ça va être quoi typiquement acquisition de ce cabinet à New York pour faire doubler les effectifs de Sia Partners en 2019. J'imagine qu'il y a quand même de la complexité juridique. Il y a des choses qu'il faut savoir, qu'il faut faire dans l'ordre quand on fait une telle acquisition du point de vue des ressources humaines.
Alors, bah oui, surtout qu'en plus, dans notre métier, on a un métier où notre matière première, c'est le capital humain. Donc, évidemment, c'est hyper important de pérenniser aussi les équipes qu'on va racheter, de faire en sorte qu'elles puissent travailler ensemble. Alors là, dans l'exemple que vous citez, il n'y avait pas de sujet de diversité culturelle, puisque c'était des Américains qui rachetaient des Américains. Donc,
oui.
On n'avait pas...
D'autres exemples, peut-être, alors, chez Sia Partners, parce que vous n'êtes pas que aux États-Unis non plus.
Oui, bah, on est effectivement dans 19 pays. Alors, du coup, il y a cette complexité des fois aussi de différents métiers et de différentes façons de comprendre un métier. Mmh. Par exemple, acheter une agence de design à New York quand votre autre pôle de designer il est en France. Comment on voit le design des deux côtés?
Et alors, comment
des deux côtés de l'Amérique.
Ouais.
Bah, du coup, c'est reprendre un peu les bases un peu de cette diversité culturelle. Donc, c'est apprendre aussi à communiquer de la même façon. Donc, c'est aussi des fois des notions d'humour qui peuvent être différentes. C'est aussi des façons de travailler.
Ouais.
Donc, il y a des fois des logiques d'horaire, notamment.
Mais c'est s'ouvrir justement à ces différences et ne pas contraindre tout le monde à fonctionner comme on le faisait au départ. C'est accepter des manières de fonctionner, de travailler différentes.
Effectivement. Et alors nous, on a mis en place quelque chose depuis quelques années. Donc c'est d'avoir un siège, de ne plus avoir de siège en fait.
Ouais.
Alors évidemment, toute la partie légale est encore basée en France, mais on veut ne plus avoir de siège managérial. Donc on va avoir des équipes corporate qui peuvent être basées n'importe où. Et ça évite aussi de trop penser des pratiques RH et des façons de fonctionner avec un silo ou un prisme qui peut être français, qui peut être américain, etc.
On réorganise les RH aussi ou pas? Est-ce que ça, il faut les adapter?
Alors, nous, notre façon de fonctionner, c'est d'avoir des RH dans chacun des pays dans lesquels on opère, parce qu'il y a quand même un besoin aussi d'avoir une compréhension. Et aussi, il y a des politiques et un droit social qui n'est évidemment pas le même. En revanche, on a mis en place un département, donc développement des talents, au niveau du groupe, pour vraiment piloter et accompagner et avoir la même offre de services et essayer d'avoir la même offre expérience employée pour l'ensemble des collaborateurs.
Bon, les opportunités, on y vient, pour faire évoluer les salariés. travailler. C'est l'occasion aussi, quand on grandit, quand on s'internationalise, de faire monter ses collaborateurs en compétences, de proposer des nouveaux postes, des nouvelles opportunités, de la mobilité.
Exactement. Oui. Alors moi, je reviens de mobilité. J'étais pendant un an à New York où j'occupais à peu près le même poste. Mais en tout, en moyenne, nous, on a 100 mobilités par an. Alors c'est aussi pour faire circuler les expertises. Oui.
C'est aussi, ça, c'est une vraie mission RH pour le coup.
Ça, c'est, effectivement, c'est oui. une vraie mission RH. Et ça rejoint aussi ce sujet de compréhension culturelle dont on parlait. Ça va vraiment faciliter, évidemment, ces échanges.
Votre travail aussi côté ressources humaines, ça va être de former aux compétences administratives, légales, commercial, à chaque fois qu'on fait une nouvelle acquisition, à chaque fois qu'on encourage la mobilité des salariés,
oui,
des associés.
Oui, tout à fait. Et du coup, il y a aussi une professionnalisation de ces fonctions qui va aussi avec l'hypercroissance de l'entreprise, puisqu'évidemment, ça met plein de contraintes.
On parlait de la culture d'entreprise. Évidemment, on ne peut pas tout normer, normaliser. Néanmoins, la culture d'entreprise, c'est important. La culture aussi de chaque région où on est présent, de chaque pays, de chaque État. Il faut aussi respecter une partie de singularité.
Oui, tout à fait. Et c'est là où il y a un vrai rôle, en fait, de toute l'équipe des directions dans le fait d'incarner ces valeurs et d'expliquer aussi qu'est-ce qu'on peut attendre des collaborateurs, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de nous et comment le tout peut fonctionner ensemble.
Et gérer les expats aussi, ça va être un enjeu pour ceux qui choisissent qui ont l'opportunité de partir.
Oui, c'est vrai qu'on a deux types de mobilité. On a des personnes qui vont nous demander à partir parce qu'ils ont envie de partir, parce que pour des raisons familiales. Et après, il y a des gens avec qui il y a des personnes à qui on va proposer. Donc effectivement, c'est pas le même format.
Sandrine Caro, il nous reste une minute pour mieux savoir aussi quel manager RH vous êtes. C'est Corentin qui vous amène tout de suite la boîte du DRH dans laquelle vous allez pouvoir piocher deux petit papier. Corentin nous amène la boîte tout de suite et je vous laisse piocher le premier papier et nous dire, c'est une phrase à compléter, on connaît l'exercice maintenant. Hein,
dans ma boîte, la rémunération est un sujet évidemment très important.
Ah oui.
Et du coup, c'est des choses sur lesquelles nous on travaille régulièrement en France dans le cadre d'ENAO afin d'essayer d'être un mieux-disant d'un point de vue
cabinet
social,
de conseil. On sait aussi qu'on s'arrache les talents et que la rémunération, c'est un sujet quand même d'attractivité. Vous devez augmenter plus régulièrement les salaires, les associés, les collaborateurs ces temps-ci.
Alors évidemment, on a eu des NAO qui étaient un peu plus régulières ces derniers temps. Et on essaye, parce que je disais, d'être mieux disant d'un point de vue social en se comparant évidemment à nos concurrents.
À la concurrence. Allez, on tire un dernier papier pour mieux connaître le côté RH de Sia Partners.
Dans ma boîte, j'aime m'occuper d'eux. Justement, ces sujets culturels, c'est un sujet sur lequel on travaille pas mal en ce moment. Comment on s'améliore, comment on travaille aussi sur l'exemplarité managériale et on décline un peu ces valeurs au sein de l'entreprise. Et c'est vraiment passionnant.
Merci beaucoup Sandrine Caro d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Responsable du département développement des talents pour le cabinet de conseil Sia Partners. Tout de suite, Jeanne nous rejoint. On appelle notre expert pour les réponses à vos questions.
Happy Boulot, coup de fil à l'expert.
Et on appelle tout de suite Mathieu Valence, avocat en droit social, pour répondre à cette question. Mathieu, peut-on saisir les prud'hommes après une rupture conventionnelle ?
On pense souvent que signer une rupture conventionnelle avec un salarié permet d'éviter tout type de contentieux. Mais c'est qu'à moitié vrai, attention donc. Évidemment, en pratique, signer une rupture conventionnelle sera plus sécurisé que de licencier un salarié. Parce que le salarié, pour pouvoir contester la validité de sa rupture conventionnelle, va devoir démontrer l'existence d'un vice du consentement, erreur, dol ou violence, en d'autres termes de pression, qui lui aurait imposé de signer la rupture conventionnelle. Attention donc, en cas de signature d'une rupture conventionnelle avec un salarié qui se prétend harcelé, parce que le salarié pourra d'autant plus facilement rapporter la preuve d'une pression qu'il aurait subie. Deuxièmement, rappelez-vous qu'en cas de signature d'une rupture conventionnelle, le salarié pourra toujours contester l'exécution de son contrat de travail, c'est-à-dire demander un rappel de bonus ou des heures supplémentaires notamment. Moralité, une rupture conventionnelle, c'est sécurisé, mais pas à 100%.
Merci Mathieu Valence, avocat en droit social. Continuez à nous écrire sur happyboulot@bfmbusiness.fr. On vous répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
Happy Boulot, le focus RH.
Votre entreprise est en péril, vous allez peut-être faire appel à nos spécialistes du sauvetage des causes perdues que j'accueille. Bonjour Yves Maigret.
Bonjour.
Vous êtes associé Valtus, expert en management de transition. Face à vous, avec vous, Anthony Baron, fondateur du cabinet Adequancy. Bienvenue.
Enchanté, Erwan.
Vous êtes Adequancy, une plateforme qui met en relation les managers de transition et les dirigeants d'entreprise. On a 10 minutes ensemble avec vous qui êtes des spécialistes du sauvetage d'entreprises en difficulté, qu'on comprenne bien, d'accord. D'abord, de quoi est-ce qu'on parle quand on invoque le management de transition, Yves Maigret?
Nous sommes des urgentistes du management, en ce sens que nous répondons aux besoins exprimés par nos clients en moins de 8 jours.
Est-ce que
en France, comme à l'international.
Est-ce que les patrons vont chez vous aussi facilement qu'on va aux urgences? On sait que les urgences sont surchargées. Côté entreprise, on a plutôt du mal à avouer qu'on a besoin d'aide la plupart du temps.
Le métier se développe considérablement. Pour répondre à votre question, on voit à travers le développement très significatif, c'était plus de 40% pour Valtus en 2022, que le métier se popularise et que de plus en plus de chefs d'entreprise ont recours à nos services.
Anthony Baron, de quelle situation complexe on parle quand on fait appel à vous ?
Ça va donner un exemple concret. J'ai en tête ce président d'un groupe industriel qui pèse à peu près 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils ont une filiale qui fait à peu près 4000 personnes. Le directeur général part aux États-Unis pour gérer l'acquisition d'une nouvelle entité là-bas. Et donc, ils ont besoin d'un directeur général qui va piloter ces 4000 personnes, 5 sites européens pendant 12 mois, améliorer la performance et également assurer une transformation vers l'industrie 4.0. Ouais. Donc on est typiquement dans ce type de situation qui nécessite l'intervention d'un manager, pour le coup directeur général dans le cas précis, surdimensionné, qui sera opérationnel très rapidement et qui va apporter de la sérénité également à l'équipe de direction et aux actionnaires.
Est-ce que faire appel à vous, c'est encore vu comme un aveu d'échec ?
Ça pouvait l'être dans le passé, et peut-être, alors moi-même qui suis un ancien DRH, fut un temps, je pense que la fonction RH considérait peut-être le recours au management de transition comme un désaveu de sa performance, et aujourd'hui, ça a considérablement évolué, et les directeurs des ressources humaines se sont appropriés le management de transition comme étant une corde à leur arc additionnelle pour résoudre des problématiques RH. Donc aujourd'hui,
Ça se démocratise de la même manière que quand on a besoin d'avoir un administrateur judiciaire, on sait que depuis le Covid, on a moins de mal peut-être à faire appel à eux pour sauver l'entreprise avant d'être vraiment dans une situation de non-retour. Aujourd'hui, on fait appel au management de transition plutôt dans la crise que c'était le cas à une certaine époque.
Alors, la réponse est double. Aujourd'hui, finalement, on intervient majoritairement dans des contextes de croissance. C'est ça qu'il faut retenir. Mais il est vrai que ce que vous évoquez, Erwan, c'est-à-dire la crise, le retournement, le turnaround, le restructuring, ce qui a participé aux lettres de noblesse du métier à ses débuts, représente encore aujourd'hui en près de 15% de notre activité. Et nous travaillons, pour le coup, main dans la main, avec des administrateurs judiciaires.
Oui, parce qu'il faut faire appel à eux, ils sont là pour ça aussi.
Voilà, et donc on travaille main dans la main avec les fonds d'investissement, les administrateurs judiciaires, pour remettre en performance des entreprises.
Et pour compléter ce que dit Yves,
Anthony Baron,
j'ai démarré en 2010 dans ce métier, en créant une première société. À l'époque, on avait une image très dégradée du management de transition, c'est-à-dire en gros délocaliser, fermer des sites, gérer des PSE, etc. Dès 2016,
des fossoyeurs, quoi.
Oui, mais dès 2016, il y a un vrai changement. En fait, il y a un changement dans l'image portée par les clients sur le management de transition. Dans les enquêtes qu'on faisait à l'époque, on est passé à 88-89% d'images positives, à très positives sur le management de transition. Parce que les managers de transition ont réussi à apporter en fait autre chose, parfois même réussi à sauver des boîtes, mais aussi à apporter toute leur expertise, faire grandir les équipes et accompagner, comme le disait Yves, des plans de croissance qui représentent aujourd'hui, en tout cas chez nous, au moins 35% de la demande.
Est-ce qu'il y a une redondance dans les scénarios, les problèmes d'organisation, de management? Est-ce qu'il y a des problèmes récurrents auxquels vous êtes confrontés, vous, dans vos métiers?
Aujourd'hui, vous avez déjà un tiers des missions qui sont ce qu'on appelle des missions de management relais. C'est-à-dire là, il s'agit de remplacer quelqu'un qui est temporairement absent. Et les deux tiers des missions, c'est du projet. Hein, et dans ces projets, bah, vous pouvez avoir des problématiques aujourd'hui de digitalisation. Donc, par exemple, chez Valtus, on a fait récemment la création d'une marketplace pour l'un des plus grands distributeurs français. Mais on a aussi fait la création de la Digital Factory pour un autre acteur de la distribution
agroalimentaire. Donc là, c'est des coups de pouce, hein, plus voilà. Que vraiment gérer des situations de crise. Et on vient aider sur un segment en particulier.
Aujourd'hui, on travaille tout secteur d'activité confondu. Aujourd'hui, l'industrie, c'est à peu près 45-50% de l'activité. Hein. Mais dans les contextes, vous avez beaucoup de contextes de transformation d'entreprise. Puisqu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont besoin de ressources pour accélérer leur transformation. Et ces ressources, souvent, régulièrement, elles ne les ont pas en interne. Ouais.
Quelle qualité il faut pour être manager de transition ? C'est quoi un bon manager de transition ?
Un manager de transition, c'est quelqu'un déjà qui a un parcours diversifié, hein, qui
a une expérience, qui a déjà mis le pied dans une entreprise.
Moyenne d'âge, et ce qui est une très belle chose, je pense, pour l'emploi, moyenne d'âge, 54 ans. Donc on est déjà sur des managers roués, expérimentés, aguerris, qui ont un background très diversifié. Il faut avoir l'adrénaline du challenge, puisque ce sont, même si on l'a évoqué, majoritairement des contextes de croissance, mais ce sont rarement des longs fleuves tranquilles. Donc il faut aimer être sur le pont, mobiliser les équipes, prendre des embruns. Il faut aussi avoir, le goût de la transmission et de faire grandir ses équipes. Il faut aussi être mobile géographiquement, puisque en l'espèce, chez Valtus, 60% des missions sont en province. Donc, il faut accepter l'augure du célibat géographique la semaine. Donc, il faut une bonne...
Il faut faire des sacrifices.
Une bonne agilité.
Ouais. Voilà. Anthony Baron, on fait appel à vous partout, dans les grands groupes, dans les ETI, les PME. Tout le monde a besoin de managers de transition à un moment donné. Oui, il y a des entreprises qui vont... plus spécifiquement faire appel à ce type de métier.
On travaille avec tout type de société en termes de taille et également de secteur d'activité. Ouais. Les grands groupes représentent à peu près 30% de nos clients aujourd'hui. Les ETI vont représenter à peu près 40% et on va avoir 20% de PME ou de start-up qui ont levé des fonds et qui ont la nécessité de se structurer.
Les faillites d'entreprise, je le disais, elles ont aussi largement augmenté depuis la période Covid. On a eu une accalmie où, forcément, elles étaient sous perfusion. Il y a des entreprises presque mortes-vivantes, zombies, comme on disait, parce qu'elles étaient maintenues en vie grâce aux aides de l'État. Finalement, on se rend compte que beaucoup mettent la clé sous la porte. La situation, elle est tendue spécifiquement pour vous en ce moment ou pas ? Parce que avec toutes ces entreprises en difficulté, on se dit, c'est là aussi que le management de transition a un rôle à jouer en ce moment.
Alors, comme vous l'évoquiez, il y a eu une période d'accalmie sur les faillites d'entreprises grâce aux mesures de soutien à l'économie et le quoi qu'il en coûte. Bon, aujourd'hui, effectivement, les entreprises sont confrontées à devoir rembourser le PGE. Bon, maintenant, sur la typologie d'entreprises qui se retrouvent en difficulté et dans le nombre de faillites qui augmente, il y a aussi beaucoup de TPE. Qui pour le coup ne sont pas dans notre cœur de cible et ne s'offrent pas nos services. Voilà. Pour autant, effectivement, l'activité restructuring reprend des couleurs.
Bon, on voit, vous, dans les chiffres, en tout cas, que vous nous communiquez, chez Valtus, une hausse historique de votre chiffre d'affaires sur 2022, l'année dernière, plus 47% à 110 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il y a quand même un besoin, il y a un business.
Le métier, oui. Moi, j'ai rejoint Valtus en 2014. À l'époque, on faisait 17 millions d'euros. Donc, vous voyez, 17 millions d'euros à 110. Et puis, on s'est considérablement internationalisé, puisque aujourd'hui, nous accompagnons nos clients partout dans le monde. Et nous sommes présents en propre dans 6 pays et avec le réseau dans 12. Ouais. Voilà. Donc, on est capable de répondre aux besoins des clients, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie.
Ouais. Anthony Baron, même constat chez Adéquancy. La demande, elle est assez forte en ce moment. On fait beaucoup appel à vous.
Elle est très forte. En fait, la particularité d'Adéquancy, en plus de ça, c'est que nous avons développé un modèle digital. Donc, on crée en fait une plateforme qui regroupe aujourd'hui 10 000 managers de transition. Ce sont 5 000 visiteurs par mois qui viennent sur le site d'Adéquancy. L'année dernière, on observe 6 000 recherches sur notre moteur de recherche sur un marché qui fait 5 000 missions par an.
Ah oui.
Cette année, on fait x3. C'est-à-dire que ce sont 20 000 recherches globalement sur l'année 2023.
Parce que ça se démocratise
Et encore une fois, les clients, quand ils ont un départ ou une situation d'urgence à gérer d'un point de vue managérial, ils ont la nécessité en fait de savoir qui a la capacité de pouvoir intervenir. Et c'est ce que propose en fait aujourd'hui Adéquancy dans son modèle de plateforme, puisque l'accessibilité est totale, directe, en toute transparence. Les clients ont la possibilité de voir à travers une recherche l'expérience du profil, où il habite, son tarif et également sa disponibilité.
Et on simplifie tout ça aussi, c'est aussi ce que recherchent les patrons, les managers en ce moment
C'est ce qu'ils recherchent, c'est-à-dire qu'en fait sur le marché, on voit aujourd'hui il y a un marché intermédiaire qui représente à peu près une mission sur deux, le reste c'est encore du direct. Et donc globalement le côté plateforme amène en fait une simplification dans l'approche pour les clients.
Le numérique, c'est le numérique. Aussi très utile dans ce domaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, merci pour toutes ces explications. Anthony Baron, fondateur du cabinet Adéquancy, Yves Maigret, associé Valtus, merci d'avoir été dans Happy Boulot. C'est l'heure de la carte blanche.
Happy Boulot, carte blanche.
Et aujourd'hui, grâce à Adeline, on fait la connaissance de la RH qui recadre le manager toxique.
Brian, vous connaissez le management toxique ? Oui, c'est quand on crée du mal-être dans ses équipes. Alors qu'ici, on veut créer du... du chiffre d'affaires, oui. On me raconte que vous criez sur vos collaborateurs, Brian. C'est grave. Parce que je vous rappelle qu'au-delà de 65 décibels, on risque une amende pour nuisance sonore et on n'a plus de budget. Vous avez balancé une orange à la tête de la stagiaire. Non, on s'en fout de qui a balancé. On joue pas avec la nourriture, Brian. Et vos collaborateurs pleurent tous les jours. Mais vous rendez-vous compte? Ça crée de l'humidité, ça fait gondoler les rames de papier. Mais vous appelez vos équipes quand ils sont en vacances. Mais enfin, mais on fait pas ça. Pas avec son téléphone d'entreprise. C'est surtaxé les appels internationaux. Vous avez installé un micro dans le bureau d'Erwan? Comment je le sais? Vous l'avez passé en note de frais? Alors qu'il existe des méthodes gratuites.
Happy Boulot, le labo RH.
En 4 minutes aujourd'hui avec vous, Boris Jotreau, bienvenue.
Bonjour Erwan.
Vous êtes directeur général de Mai. Vous regroupez tous les avantages salariaux dans une seule et même cagnotte. Il faut nous expliquer ça.
Oui. Donc Mai, c'est une application qui centralise tous les avantages à un seul endroit. Donc il y en a 9 en France aujourd'hui. Ouais. On parle de titre restaurant, titre cadeau, chèque vacances. Voilà, finalement tous les avantages qu'on connaît en France. Donc, on a centralisé ça dans une seule plateforme. Mmh. Et la chose qu'on fait qui est extrêmement spéciale, c'est qu'on permet aux salariés de choisir leurs avantages. Oui. Donc chaque salarié va avoir un package d'avantages qui lui est personnalisé. Et donc on va pouvoir choisir d'avoir un peu plus de titres restaurant ou un peu plus d'allocations télétravail ou un peu plus d'allocations vacances par exemple.
C'est quoi cette plateforme? C'est un site? C'est une appli? Comment ça se matérialise?
C'est principalement une application qui permet d'avoir tous ces avantages-là.
Donc on télécharge sur son
smartphone, ouais. Exactement. Et également on va pouvoir synchroniser son compte en banque. Ce qui fait que votre carte bancaire devient finalement votre carte d'avantages salariés.
On paye directement, enfin, comme on le ferait normalement. Exactement. Avec sa carte bancaire. Et ensuite, il se passe quoi? Mais on est débité sur notre compte?
Débité sur votre compte et remboursé automatiquement sur votre compte en banque.
Par l'entreprise?
Par l'entreprise.
Ok. Donc facile pour le salarié, facile aussi pour l'employeur?
Oui, tout à fait. Il y a une plateforme où on a accès quand on est employeur. On va charger les cagnottes des salariés. Et ensuite, elles vont être distribuées aux salariés en fonction de leurs besoins. C'est ça qui est le plus important, oui. C'est que c'est vraiment flexible.
Et justement, si vous avez lancé Mai, c'est qu'il y a un besoin. Vous avez mené une étude d'ailleurs qui explique qu'il y a un intérêt dans cette technologie, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses et on pourrait simplifier. C'est ce que vous faites.
Tout à fait. En fait, on a mené une étude et à peu près un salarié sur deux n'utilise pas ses avantages aux salariés, ce qui est énorme.
C'est-à-dire ils peuvent en bénéficier,
mais ils n'utilisent pas parce qu'ils n'en ont pas besoin, parce que soit ils ont beaucoup de télétravail et donc du coup ils ont moins besoin de certains avantages.
Ou des fois, moi je pense au chèque vacances en papier. Jusqu'à il y a peu de temps, si on voulait prendre un billet de train, il fallait aller avec faire la queue à la gare et on n'a pas forcément envie des fois de perdre deux heures, surtout quand on prend un train un petit peu au dernier moment. Enfin, typiquement ce genre de choses, ça peut être un frein, alors que quand on numérise, c'est plus facile.
Tout à fait, à fait. Et du coup, 8 salariés sur 10 voudraient des avantages qui soient plus diversifiés. Donc ça permet justement d'avoir, quand on a tous les avantages, d'avoir un package beaucoup plus diversifié et surtout beaucoup plus simple. Et c'est là également où on intervient, c'est-à-dire qu'une fois qu'on va aller payer justement son billet de train, son billet d'avion, on va au restaurant et tout ça est géré directement de manière automatique.
Et le salarié, il doit avancer les frais ou pas, puisque c'est pris sur son compte?
Oui, il peut avancer les frais.
Il avance les frais et ensuite c'est l'entreprise qui va rembourser. C'est une espèce de super app pour entreprise en fait.
Exactement.
Pour vous travaillez avec les CSE?
On travaille également avec les CSE, on travaille avec les DRH et avec les CSE.
Combien ça coûte? Combien de clients aujourd'hui?
Aujourd'hui on a plus de 200 clients. On vient signer des clients comme Renault ou Decathlon.
Mais c'est un très gros marché.
C'est un très gros marché, c'est plusieurs milliards de, d'euros.
Et là, on en est au tout début pour l'instant.
Ça fait deux ans.
On commence à dématérialiser individuellement les tickets resto, les chèques vacances, etc. Mais pour l'instant, on n'a pas encore forcément pensé dans les entreprises à tout regrouper.
Ah, tout à fait. En fait, aujourd'hui, on a dématérialisé vraiment avantage par avantage, donc du chèque par un restaurant à la carte restaurant. Nous, ce qu'on propose, c'est de centraliser tous les avantages et de les digitaliser tous à un seul endroit.
Et le prix, ça va dépendre de ce qu'on...
Ça va dépendre du volume de transactions et de salariés surtout.
Donc ça, c'est les entreprises, les RH qui vous appellent directement pour avoir le devis.
Tout à fait.
Merci beaucoup d'être venu nous présenter cette innovation. Boris Jotreau, directeur général de May, merci d'être venu dans Happy Boulot. C'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouvez cette émission, bien sûr, comme chaque semaine en replay et en podcast. Abonnez-vous pour recevoir les nouveaux épisodes. Merci à Flo et Alban en régie. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, bien sûr, soyez heureux au boulot.
Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.